Chapitre 2. La pétition, le drapeau rouge. Il y a certains moments où le peuple, à la suite d'excitations successives, monte comme une marée et a besoin de quelques grands cataclysmes pour rentrer, comme l'océan, dans le lit que la nature lui a creusé. Il en était ainsi du peuple parisien pendant cette première quinzaine de juillet où tant d'événements étaient venus le mettre en ébullition. Le dimanche 10, on avait été au devant du convoi de Voltaire, mais le mauvais temps avait empêché la fête d'avoir lieu, et le convoi s'était arrêté à la barrière de Charenton, où la foule avait stationné toute la journée. Le lundi 11, le temps s'était éclairci, le cortège s'était mis en route, et avait traversé Paris au milieu d'un immense concours de peuple, faisant halte devant la maison où était mort l'auteur du Dictionnaire philosophique et de La Pucelle, pour donner le temps à Madame Villette, sa fille adoptive, et à la famille de Calas de couronner le cercueil, salué par les chœurs des artistes de l'opéra. Le mercredi 13, spectacle à Notre-Dame, on y joue la prise de la Bastille à grand orchestre. Le jeudi 14, anniversaire de la Fédération, pèlerinage à l'hôtel de la Patrie, les trois quarts de Paris sont au Champ de Mars et les têtes se montent de plus en plus au cri de « Vive la nation » et à la vue de l'illumination universelle au milieu de laquelle le palais des Tuileries, sombre et muet, semble un tombeau. Le vendredi 15, vote à la Chambre, protégé par les 4000 baïonnettes et les 1000 piques de Lafayette, pétition de la foule, fermeture des théâtres, bruit et rumeurs pendant toute la soirée et une partie de la nuit. Enfin, le samedi 16, désertion des Jacobins pour les Feuillants, scène violente sur le pont Neuf, où les hommes de la police battent Fréron et arrêtent un Anglais, maître d'Italien, nommé Rotondo. Excitation au Champ de Mars, où Billot découvre dans la pétition la phrase de Laclos, vote populaire sur la déchéance de Louis XVI, rendez-vous pris pour le lendemain afin de signer la pétition. Nuit sombre, agitée, pleine de tumulte, où tandis que les grands meneurs des Jacobins et des Cordeliers se cachent parce qu'ils connaissent le jeu de leurs adversaires, les hommes consciencieux et naïfs du parti se promettent de se réunir et de donner quelque chose qui puisse arriver suite à l'entreprise commencée. Puis d'autres veillent encore dans des sentiments moins honnêtes et surtout moins philanthropiques. Ce sont ces hommes de haine qu'on retrouve à chaque grande commotion des sociétés qui aiment le trouble, le tumulte, la vue du sang, comme les vautours et les tigres aiment les armées qui se battent et qui leur fournissent des cadavres. Marat, dans son souterrain où le confine sa monomanie, Marat croit toujours être persécuté, menacé ou feint de le croire. Il vit dans l'ombre comme les animaux de proie et les oiseaux de nuit. De cette ombre, comme de l'antre de Trophius ou de Delphes, sortent tous les matins de sinistres oracles et passent sur les feuilles de ce journal qu'on appelle l'ami du peuple. Depuis quelques jours, le journal de Marat sue le sang. Depuis le retour du roi, il propose comme seul moyen de sauvegarder les droits et les intérêts du peuple un dictateur unique et un massacre général. Au dire de Marat, il faut avant tout égorger l'Assemblée et pendre les autorités. Et puis, en manière de variante, comme l'égorgement et la pendaison ne lui suffisent pas, il propose de scier les mains, de couper les pouces, d'enterrer vivant, d'asseoir sur des pales. Il est temps que le médecin de Marat vienne à lui selon son habitude et lui dise « Vous écrivez rouge, Marat, il faut que je vous saigne ». Verrières, cet abominable bossu, ce formidable nain aux longs bras et aux longues jambes que nous avons vu apparaître au commencement de ce livre pour faire les 5 et 6 octobre, et qui, les 5 et 6 octobre faits, est rentré dans l'obscurité, eh bien, le soir du 16, il a reparu, on l'a revu. Vision de l'Apocalypse, dit Michelet, monté sur le cheval blanc de la mort au flanc duquel ballottent ses longues jambes aux gros genoux et aux grands pieds. Il s'est arrêté à chaque coin de rue, à chaque carrefour, et, héros de malheur, il a convoqué pour le lendemain le peuple au Champ de Mars. Fournier, qui va, lui, se produire pour la première fois, et qu'on appellera Fournier l'Américain, non pas parce qu'il est né en Amérique, Fournier est auvergnat, mais parce qu'il a été piqueur de nègres à Saint-Domingue, Fournier ruiné, aigri par un procès perdu, exaspéré par le silence avec lequel l'Assemblée nationale a reçu les 20 pétitions successives qu'il lui a envoyées, et c'est tout simple, les meneurs de l'Assemblée sont des planteurs, les Lamettes ou des amis des planteurs du port Barnave. Aussi, à la première occasion, se vengera-t-il, il se le promet, et il tiendra sa parole. Cet homme qui a dans sa pensée les soubresauts de la brute et sur son visage le ricanement de l'hyène. Aussi, voyez, voici la situation de tous pendant la nuit du 16 au 17. Le roi et la reine attendent anxieusement aux Tuileries. Barnave leur a promis un triomphe sur le peuple. Il ne leur a pas dit quel serait ce triomphe, ni de quelle manière il s'opérerait. Mais peu leur importe, les moyens ne le regardent pas, on agit pour eux. Seulement, le roi désire ce triomphe parce qu'il améliore la position de la royauté. La reine, parce que ce sera un commencement de vengeance, et ce peuple l'a fait tant souffrir que, à son avis, il lui est bien permis de se venger. L'Assemblée, appuyée sur une de ces majorités factices qui rassurent les assemblées, attend avec une certaine tranquillité. Ses mesures sont prises, elle aura quelque chose qu'il arrive, la loi pour elle, et, le cas échéant, le besoin venu, elle invoquera ce mot suprême, « salut public ». Lafayette aussi attend sans crainte, il a sa garde nationale qui lui est encore toute dévouée, et parmi cette garde nationale un corps de 9000 hommes composé d'anciens militaires, de gardes françaises, d'enrôlés volontaires. Ce corps appartient plus à l'armée qu'à la ville, il est payé d'ailleurs, aussi l'appelle-t-on la garde soldée. S'il y a le lendemain quelque exécution terrible à faire, c'est ce corps qui la fera. Bailly et la municipalité attendent de leur côté. Bailly, après une vie tout entière passée dans l'étude et dans le cabinet, est poussé subitement dans la politique et sur les places et les carrefours. Admonesté la veille par l'Assemblée sur la faiblesse qu'il a montrée dans la soirée du 15, il s'est endormi, la tête posée sur la loi martiale qu'il appliquera le lendemain dans toute sa rigueur si besoin est. Les Jacobins attendent, mais dans la dislocation la plus complète. Robespierre est caché, Laclos qui a vu rayer sa phrase boude, Pétion, Buzot et Brissot se tiennent prêts, supposant bien que la journée du lendemain sera rude. Santerre, qui à 11 heures du matin doit aller au Champ de Mars pour retirer la pétition, leur donnera des nouvelles. Les Cordeliers ont abdiqué. Danton, nous l'avons dit, est à Fontenay chez son beau-père, le gendre Fréron et Camille Desmoulins le rejoindront. Le reste ne fera rien, la tête manque. Le peuple qui ignore tout cela ira au Champ de Mars, il y signera la pétition, il y criera « Vive la nation !», il dansera en rond autour de l'autel de la patrie en chantant le fameux « Ça ira » de 1790. Entre 1790 et 1791, la réaction a creusé un abîme. Cet abîme, il faudra les morts du 17 juillet pour le combler. Quoi qu'il en soit, le jour se leva magnifique. Dès 4 heures du matin, tous ces petits industriels forains qui vivent des multitudes, ces bohèmes des grandes villes qui vendent du coco, du pain d'épices, des gâteaux, commençait à s'acheminer vers l'autel de la patrie, lequel s'élevait solitaire au milieu du Champ de Mars, pareil à un grand catafalque. Un peintre, placé à une vingtaine de pas de la face tournée vers la rivière, en faisait scrupuleusement un dessin. À 4 heures et demie, on compte déjà 150 personnes à peu près au Champ de Mars. Ceux qui se lèvent 6 matins sont en général ceux qui ont mal dormi, et la plupart de ceux qui dorment mal, je parle des hommes et des femmes du peuple, sont ceux qui ont mal soupé ou qui n'ont pas soupé du tout. Quand on n'a pas soupé et qu'on a mal dormi, on est ordinairement de mauvaise humeur à 4 heures du matin. Il y avait donc parmi ces 150 personnes qui enveloppaient l'autel de la patrie, pas mal de gens de mauvaise humeur et surtout de mauvaise mine. Tout à coup, une femme, une marchande de limonade qui est montée sur les degrés de l'autel, pousse un cri. La pointe d'une vrille vient de percer son soulier. Elle l'appelle, on accourt. Le plancher est percé de trous dont on ne comprend ni la cause ni la raison. Seulement, cette vrille qui vient de percer le soulier de la marchande de limonade indique la présence de l'un ou de plusieurs hommes sous la plateforme de l'autel de la patrie. Que peuvent-ils faire là? On les interpelle, on les somme de répondre, de dire leurs intentions, de sortir, de paraître. Pas de réponse. Le rapin quitte son escabeau, laisse sa toile et court au gros caillou pour y chercher la garde. La garde, qui ne voit pas dans une femme piquée au pied par une vrille un motif suffisant de se déranger, refuse le service et renvoie le rapin. Au retour de celui-ci, l'exaspération est à son comble. Tout le monde est amassé autour de l'hôtel de la patrie, 300 personnes à peu près. On lève une planche, on pénètre dans la cavité, on trouve notre perruquier et notre invalide tout penaud. Le perruquier, qui a vu dans la vrille une preuve de conviction, la jette loin de lui, mais il n'a pas pensé à éloigner le baril. On les prend au collet, on les force de monter sur la plateforme, on les interroge sur leurs intentions, et comme ils balbutient, on les mène chez le commissaire. Là, interrogés, ils avouent dans quel but ils se sont cachés. Le commissaire n'y voit qu'une espièglerie sans conséquence et les remet en liberté. Mais à la porte, ils trouvent les blanchisseuses du gros caillou, leur battoir à la main. Les blanchisseuses du gros caillou sont, à ce qu'il paraît, très chatouilleuses à l'endroit de l'honneur des femmes. Elles tombent, dianes irritées, à grands coups de battoir sur les actéens modernes. En ce moment-là, un homme accourt. On a trouvé, sous l'autel de la patrie, un baril de poudre. Les deux coupables étaient là, non point, comme ils l'ont dit, pour percer des trous et regarder en l'air, mais pour faire sauter les patriotes. Il n'y avait qu'à tirer la bonde du baril et à s'assurer que c'était du vin et non pas de la poudre qu'il contenait. Il n'y avait qu'à réfléchir qu'en mettant le feu au baril, les deux conspirateurs, en supposant que ce baril contint de la poudre, se faisaient sauter les premiers et plus sûrement encore qu'ils ne faisaient sauter les patriotes. Et les deux prétendus coupables étaient innocentés. Mais il y a des moments où l'on ne réfléchit à rien, où l'on ne vérifie rien, ou plutôt où l'on ne veut pas réfléchir et où l'on se garde bien de vérifier. À l'instant même, la bourrasque se change en orage. Un groupe d'hommes arrive. D'où sort-il? On ne sait pas. D'où sortaient ces hommes qui ont tué Foulon, Berthier, Flessel, qui ont fait les 5 et 6 octobre? Des ténèbres, où ils rentrent quand leur œuvre de mort est finie. Ces hommes s'emparent du malheureux invalide et du pauvre perruquier. Tous deux sont renversés. L'un d'eux, l'invalide, est percé de coups de couteau et ne se relève pas. L'autre, le perruquier, est traîné sous un réverbère. On lui passe une corde au cou. On le hisse. À hauteur de 10 pieds à peu près, le poids de son corps fait casser la corde. Il retombe vivant, se débat un instant et voit la tête de son compagnon au bout d'une pique. Comment y avait-il là, justement, une pique? À cette vue, il jette un cri et s'évanouit. Aussitôt, on lui coupe, ou plutôt, on lui scie la tête, et il se trouve à point nommé une seconde pique pour recevoir le sanglant trophée. Aussi, le besoin de promener dans Paris ces deux têtes coupées s'empare de la populace, et les porteurs de têtes, suivis d'une centaine de bandits parés à eux, prennent en chantant la rue de Grenelle. À 9 heures, les officiers municipaux, les notables avec huissiers et trompettes proclamaient sur la place du Palais-Royal le décret de l'Assemblée et les mesures répressives qu'entraînerait toute infraction à ce décret, lorsque, par la rue Saint-Thomas-du-Louvre, débouchent les égorgeurs. C'est une admirable position faite à la municipalité. Si acerbe que fussent ces mesures, elles n'atteindraient jamais à la hauteur du crime qui venait d'être commis. L'assemblée commençait à se réunir. De la place du Palais-Royal au manège, il n'y avait pas loin. La nouvelle ne fait qu'un bond et va éclater dans la salle. Seulement, ce n'est plus un perruquier et un invalide puni bien outre mesure pour une polissonnerie de collégiens. Ce sont deux bons citoyens, deux amis de l'ordre, qui ont été égorgés pour avoir recommandé aux révolutionnaires le respect des lois. Alors Regnault de Saint-Jean d'Angély s'élance à la tribune. « Citoyens, dit-il, je demande la loi martiale. Je demande que l'Assemblée déclare ceux qui, par écrit, individuel ou collectif, porteraient le peuple à résister, criminels de lèse-nation. » L'Assemblée se lève presque entière et, sur la motion de Regnault de Saint-Jean d'Angély, proclame criminel de lèse-nation ceux qui, par des écrits individuels ou collectifs, porteront le peuple à la résistance. Ainsi voilà les pétitionnaires criminels de lèse-nation. C'est ce que l'on voulait. Robespierre était caché dans un coin de l'Assemblée. Il entendit proclamer le vote et courut aux Jacobins pour leur donner avis de la mesure qui venait d'être prise. La salle des Jacobins était déserte. 25 ou 30 membres à peine erraient dans le vieux couvent. Santerre était là, attendant l'ordre des chefs. On expédie Santerre au Champ de Mars afin qu'il prévienne les pétitionnaires du danger qu'ils courent. Il les trouve au nombre de 200 ou 300, signant sur l'autel de la patrie la pétition des Jacobins. L'homme de la veille, Billot, est le centre de ce vaste mouvement. Il ne s'est pas signé, lui, mais il dit son nom, il s'est fait guider la main et il a signé un des premiers. Santerre monte à l'autel de la patrie, annonce que l'assemblée vient de proclamer rebelle quiconque oserait demander la déchéance du roi et déclare qu'il est envoyé par les Jacobins pour retirer la pétition rédigée par Bristow. Billot descend 3 degrés et se trouve en face du célèbre brasseur. Les deux hommes du peuple se regardent, s'examinent, symboles l'un et l'autre des deux forces matérielles qui agissent en ce moment, la province, Paris. Tous deux se reconnaissent pour frères, ils ont combattu ensemble à la Bastille. « C'est bien, dit Billot, on la rendra aux Jacobins leur pétition, mais on en fera une autre. » « Cette pétition, dit Santerre, on n'aura qu'à la porter chez moi, au Faubourg Saint-Antoine. Je la signerai et la ferai signer par mes ouvriers. » Et il lui tend sa large main où Billot plante la sienne. À la vue de cette puissante fraternité qui relie la province à la ville, on applaudit. Billot rend à Santerre sa pétition et celui-ci s'éloigne en faisant au peuple un de ces gestes de promesse et d'assentiment auxquels le peuple ne se trompe pas. D'ailleurs, il commence à connaître Santerre. Maintenant, dit Billot, les Jacobins ont peur, soit. Ayant peur, ils ont droit de retirer leur pétition, soit encore. Mais nous, nous qui n'avons pas peur, nous avons le droit d'en faire une autre. Oui, oui, crient plusieurs voix, une autre pétition, ici, demain. Et pourquoi pas aujourd'hui, demande Billot. Demain, qui sait ce qui arrivera d'ici à demain. Oui, oui, crient plusieurs voix, aujourd'hui, tout de suite. Un groupe de gens distingués s'est formé autour de Billot. La force a la vertu de l'aimant, elle l'attire. Ce groupe se compose de députés des Cordeliers ou de Jacobins amateurs qui, mal renseignés ou plus hasardeux que les chefs, sont venus au Champ de Mars malgré le contre-ordre. Ces hommes, pour la plupart, portaient des noms fort inconnus alors, mais ils ne devaient pas tarder à faire de ces noms des célébrités bien différentes. C'était Robert, Mademoiselle de Kiralio, Roland, Brune, ouvrier typographe qui sera maréchal de France, Hébert, écrivain public, rédacteur futur du terrible Père Duchesne, Chaumette, journaliste et élève en médecine, Sergent, graveur en taille douce, qui sera le beau-frère de Marceau et qui mettra en scène les fêtes patriotiques, Fabre d'Églantine, l'auteur de l'intrigue épistolaire, Henriot, le gendarme de la guillotine, Maillard, le terrible huissier du Châtelet que nous avons perdu de vue depuis le 6 octobre et que nous retrouverons le 2 septembre, Isabée père et Isabée fils, le seul peut-être des acteurs de cette scène qui puisse la raconter, jeune et vivant qu'il est encore, à 88 ans. « Tout de suite !» cria le peuple. « Oui, tout de suite !» Un immense applaudissement s'éleva du côté du Champ de Mars. « Mais qui tiendra la plume ?» demanda une voix. « Moi, vous, nous, tout le monde !» s'écria Billot. « Celle-là sera réellement la pétition du peuple !» Un patriote se détacha tout courant, il allait chercher du papier, de l'encre et des plumes. En l'attendant, on se prit par les mains et l'on recommença à danser des farandoles en chantant le fameux « Ça ira ». Le patriote revint au bout de 10 minutes avec papier, plumes et encre. Il avait, de peur de manquer, acheté une bouteille d'encre, un paquet de plumes et 5 ou 6 cahiers de papier. Alors Robert prit la plume et Mademoiselle de Kiralio, Madame Roland et Roland dictant tour à tour, il écrivit la pétition suivante. « Pétition à l'Assemblée nationale, rédigée sur l'autel de la patrie le 17 juillet 1791. Représentant de la nation, vous touchez au terme de vos travaux. Bientôt des successeurs, tous nommés par le peuple, allez marcher sur vos traces, sans rencontrer les obstacles que vous ont présentés les députés des deux ordres privilégiés, ennemis nécessaires de tous les principes de la sainte égalité. Un grand crime se commet, Louis XVI fuit, il abandonne indignement son poste, l'Empire est à deux doigts de l'anarchie. Des citoyens l'arrêtent à Varennes et il est ramené à Paris. Le peuple de cette capitale vous demande instamment de ne rien prononcer sur le sort du coupable sans avoir entendu l'expression du vœu des 82 autres départements. Vous différez. Une foule d'adresses arrive à l'Assemblée. Toutes les sections de l'Empire demandent simultanément que Louis soit jugé. Vous, messieurs, vous avez préjugé qu'il était innocent et inviolable en déclarant, par votre vote du 16, que la charte constitutionnelle lui sera présentée alors que la Constitution sera achevée. Législateur, ce n'était point là le vœu du peuple, et nous avons pensé que votre plus grande gloire, votre devoir même, consistait à être les organes de la volonté publique. Sans doute, messieurs, que vous avez été entraînés à cette décision par la foule de ces députés réfractaires qui ont fait d'avance leur protestation contre la Constitution. Mais, messieurs, mais représentants d'un peuple généreux et confiant, rappelez-vous que ces 290 protestants n'avaient point de voix à l'Assemblée nationale, que le décret est donc nul dans la forme et dans le fond. Nul dans le fond parce qu'il est contraire aux vœux du souverain, nul dans la forme parce qu'il est porté par 290 individus sans qualité. Ces considérations, toutes ces vues du bien général, ce désir impérieux d'éviter l'anarchie à laquelle nous exposerait le défaut d'harmonie entre les représentants et les représentés, tout nous fait la loi de vous demander, au nom de la France entière, de revenir sur ce décret, de prendre en considération que le délit de Louis XVI est prouvé et que ce roi a abdiqué, de revoir son abdication et de convoquer un nouveau corps constituant pour procéder d'une manière vraiment nationale au jugement du coupable et surtout au remplacement et à l'organisation d'un nouveau pouvoir exécutif. La pétition demandée, on réclama le silence. À l'instant même, tout bruit cesse, les fronts se découvrent et Robert lit à haute voix les lignes que nous venons de mettre sous les yeux de nos lecteurs. Elles répondaient aux vœux de tous, aussi aucune observation ne fut faite, mais au contraire, des applaudissements unanimes éclatèrent à la dernière phrase. Il s'agissait de signer. On n'était plus seulement 200 ou 300, on était 10 000 peut-être, et comme par toutes les issues du Champ de Mars, la foule ne cessait d'arriver, il était évident que, avant une heure, plus de 50 000 personnes entoureraient l'hôtel de la Patrie. Les commissaires rédacteurs signent les premiers, puis passent la plume à leurs voisins, puis, comme en une seconde le bas de la page est couvert de signatures, on distribue des feuilles de papier blanche du même format que la pétition. Ces feuilles, numérotées, seront ajoutées à la suite. Les feuilles distribuées, on signe d'abord sur les cratères que forment les quatre angles de l'autel de la Patrie, ensuite sur les degrés, sur les genoux, sur la forme des chapeaux et sur tout ce qui offre un point d'appui. Cependant, d'après les ordres de l'Assemblée transmis à Lafayette et qui ont rapport non pas à la pétition qui se signe à 7 heures, mais à l'assassinat du matin, les premières troupes arrivent au Champ de Mars. Et la préoccupation que cause la pétition est telle qu'à peine fait-on attention à ces troupes. Ce qui va se passer aura pourtant quelque importance. Ces troupes sont conduites par un aide de camp de Lafayette. Lequel? On ne le nomme pas. Lafayette a toujours eu tant d'aides de camp que l'histoire s'y perd. Quoi qu'il en soit, un coup de feu part, déglacit, et va frapper cet aide de camp. Mais la blessure est peu dangereuse, et le coup étant isolé, on dédaigne d'y répondre. Une scène du même genre se passe au Gros Caillou. C'est par le Gros Caillou que se présente Lafayette avec 3 000 hommes et du canon. Mais Fournier est là, à la tête d'une bande de coquins, les mêmes probablement qui ont assassiné le perruquier et l'invalide. Ils font une barricade. Lafayette marche contre cette barricade et la démolit. À travers les roues d'une charrette et à bout portant, Fournier tire un coup de fusil sur Lafayette. Par bonheur, le fusil rate. La barricade est emportée et Fournier pris. On l'amène devant Lafayette. « Quel est cet homme » demande-t-il. « Celui qui a tiré sur vous et dont le fusil a raté. Lâchez-le et qu'il aille se faire pendre ailleurs. » Fournier n'alla point se faire pendre, il disparut momentanément et reparut au massacre de Septembre. Lafayette arrive au Champ de Mars, on y signe la pétition, la tranquillité la plus parfaite y règne. Cette tranquillité était grande, puisque Madame de Condorcet y promenait son enfant âgé d'un an. Lafayette s'avance jusqu'à l'hôtel de la Patrie, il s'enquiert de ce qu'on y fait, On lui montre la pétition, les pétitionnaires s'engagent à rentrer chez eux. Quand la pétition sera signée, il ne voit rien de bien répréhensible dans tout cela et se retire avec sa troupe. Mais si ce coup de feu qui a blessé l'aide de camp de Lafayette, si ce fusil qui a raté sur lui-même n'ont pas été entendus au Champ de Mars, ils ont eu un retentissement terrible à l'Assemblée. N'oublions pas que l'Assemblée veut un coup d'État royaliste et que tout la sert. Lafayette est blessé, son aide de camp est tué, on s'égorge au Champ de Mars. Telle est la nouvelle qui court dans Paris et que l'Assemblée transmet officiellement à l'Hôtel de Ville. Mais l'Hôtel de Ville s'est déjà inquiété de ce qui se fait au Champ de Mars. Il a envoyé de son côté trois municipaux, messieurs Jacques, Renaud et Hardy. Du haut de l'Hôtel de la Patrie, les signataires de la pétition voient s'avancer vers eux un nouveau cortège. Celui-là arrive du côté du bord de l'eau. Ils envoient une députation au devant du cortège. Les trois officiers municipaux, ce sont ceux qui viennent d'entrer au Champ de Mars, marchent droit à l'Hôtel de la Patrie. Mais au lieu de cette foule de factieux qu'ils s'attendaient à trouver effarés, en tumulte et pleine de menaces, ils voient des citoyens, les uns se promenant par groupes, les autres signant la pétition, d'autres enfin dansant la farandole en chantant le « Ça ira ». La multitude est tranquille, mais peut-être la pétition est-elle factieuse. Les municipaux demandent que cette pétition leur soit lue. La pétition leur est lue, depuis la première jusqu'à la dernière ligne, et comme la chose est déjà arrivée une fois, cette lecture est suivie de bravos universels, d'acclamations unanimes. « Messieurs, disent alors les officiers municipaux, nous sommes charmés de connaître vos dispositions. On nous avait dit qu'il y avait ici du tumulte, on nous avait trompés. Nous ne manquerons pas de rendre compte de ce que nous avons vu, de dire la tranquillité qui règne au Champ de Mars. » Et loin de vous empêcher de faire votre pétition, nous vous aiderions de la force publique dans le cas où l'on essayerait de vous troubler. Si nous n'étions pas en fonction, nous la signerions nous-mêmes. Et si vous doutez de nos intentions, nous resterons en otage près de vous jusqu'à ce que toutes les signatures soient apposées. Ainsi, l'esprit de la pétition est bien l'esprit de tous, puisque les membres de la municipalité eux-mêmes signeraient comme citoyens cette pétition que leur qualité de municipaux les empêche seuls de signer. Cette adhésion de trois hommes qu'ils voyaient s'avancer vers eux avec défiance, leur supposant des intentions ennemies, encourage les pétitionnaires. Dans la rixe sans gravité qui vient d'avoir lieu entre le peuple et la garde nationale, deux hommes ont été arrêtés, comme cela arrive presque toujours en pareilles circonstances. Les deux prisonniers sont parfaitement innocents, les plus notables parmi les pétitionnaires demandent qu'on les mette en liberté. « Nous ne pouvons prendre cela sur nous, » répondent les délégués de la municipalité, « mais nommez des commissaires. Ces commissaires nous accompagneront à l'Hôtel de Ville et justice leur sera accordée. » Alors on nomme 12 commissaires. Billot, nommé à l'unanimité, fait partie de cette commission qui prend avec les trois délégués le chemin de la municipalité. En arrivant sur la place de Grève, les commissaires sont tout étonnés de trouver cette place encombrée de soldats. Il s'ouvre à grand-peine un chemin à travers cette forêt de baïonnettes. Billot les guide, on se rappelle qu'il connaît l'Hôtel de Ville, nous l'y avons vu entrer plus d'une fois avec Pitou. À la porte de la salle du conseil, les trois officiers municipaux invitent les commissaires à attendre un instant, se font ouvrir la porte, entrent et ne reparaissent plus. Les commissaires attendent une heure. Pas de nouvelles. Billot s'impatiente, fronce le sourcil et frappe du pied. Tout à coup, la porte s'ouvre. Le corps municipal paraît, Bailly en tête. Bailly est fort pâle. C'est avant tout un mathématicien. Il a le sentiment exact du juste et de l'injuste. Il sent qu'on le pousse à une mauvaise action. Mais l'ordre de l'Assemblée est là. Bailly l'exécutera jusqu'au bout. Billot s'avance, droit à lui. « Monsieur le maire, dit-il, de ce ton ferme que nos lecteurs lui connaissent, nous vous attendons depuis plus d'une heure. « Qui êtes-vous et qu'avez-vous à me dire ?» demande Bailly. « Qui je suis ?» répond Billot. « Cela m'étonne que vous me demandiez qui je suis, monsieur Bailly. Il est vrai que ceux qui vont à gauche ne sauraient reconnaître ceux qui suivent leur droit chemin. Je suis Billot. » Bailly fit un mouvement. Ce seul nom lui rappelait l'homme qui était entré un des premiers à la Bastille. L'homme qui avait gardé l'hôtel de ville au jour terrible des massacres de Foulon et de Berthier, l'homme qui avait marché à la portière du roi revenant de Versailles, qui avait attaché la cocarde tricolore au chapeau de Louis XVI, qui avait réveillé Lafayette dans la nuit du 5 au 6 octobre, qui enfin venait de ramener Louis XVI de Varennes. Quant à ce que j'ai à vous dire, continua Billot, j'ai à vous dire que nous sommes les envoyés du peuple, assemblés au Champ de Mars. Et que demande-t-il, le peuple? Il demande que l'on tienne la promesse faite par vos trois envoyés, c'est-à-dire que l'on mette en liberté deux citoyens injustement accusés et de l'innocence desquels nous nous portons garants. Bon, dit Bailly, essayant de passer, est-ce que nous répondons de pareilles promesses? Et pourquoi n'en répondrez-vous point? Parce qu'elles ont été faites à des factieux. Les commissaires se regardèrent étonnés. Billot fronça le sourcil. À des factieux, dit-il. Ah, voilà que nous sommes des factieux maintenant. Oui, dit Bailly, à des factieux, et je vais me rendre au Champ de Mars pour y mettre la paix. Billot haussa les épaules et se mit à rire de ce gros rire qui, en passant par certaines lèvres, prend une expression menaçante. Mettre la paix au Champ de Mars, dit-il, mais votre ami Lafayette en sort du Champ de Mars, mais vos trois délégués en sortent, et ils vous diront que le Champ de Mars est plus calme que la place de l'Hôtel de Ville. Juste en ce moment, le capitaine d'une compagnie du centre du bataillon Bonne Nouvelle accourt tout effaré. « Où est monsieur le maire » demande-t-il. Billot se range pour démasquer Bailly. « Me voici, » dit ce dernier. « Aux armes, monsieur le maire, aux armes !» crie le capitaine. « On se bat au Champ de Mars, où 50 000 brigands réunis s'apprêtent à marcher sur l'assemblée. » À peine le capitaine a-t-il prononcé ces mots que la lourde main de Billot pèse sur son épaule. « Et qui dit cela ?» demanda le fermier. « Qui le dit ? L'Assemblée !»« L'Assemblée en a menti !» reprend Billot. « Monsieur !» dit le capitaine en tirant son sabre. « L'Assemblée en a menti !» répète Billot, en saisissant le sabre, moitié par la poignée, moitié par la lame, et en l'arrachant des mains du capitaine. « Assez, assez, messieurs !» dit Bailly. « Nous allons voir cela par nous-mêmes. Monsieur Billot, rendez ce sabre, je vous prie. » Et si vous avez de l'influence sur ceux qui vous envoient, retournez près d'eux et invitez-les à se disperser. » Billot jeta le sabre aux pieds du capitaine. « À se disperser, dit-il, allons donc. Le droit de pétition nous est reconnu par un décret, et jusqu'à ce qu'un décret nous l'ôte, il ne sera permis à personne, ni maire, ni commandant de la garde nationale, d'empêcher des citoyens d'exprimer leurs vœux. Vous allez au Champ de Mars, nous vous y précédons, monsieur le maire. » Ceux qui entouraient les acteurs de cette scène n'attendaient qu'un ordre, qu'un mot, qu'un geste de Bailly pour arrêter Billot. Mais Bailly sentait que cette voix qui venait de lui parler si haut et si ferme, c'était la voix du peuple. Il fit signe qu'on laissa passer Billot et les commissaires. On descendit sur la place, un vaste drapeau rouge tordé à l'une des fenêtres de l'hôtel de ville, ses plis sanglants dans les premiers souffles d'un orage qui montait au ciel. Par malheur, cet orage ne dura que quelques instants. Il gronda sans pluie, augmenta la chaleur de la journée, répandit un peu plus d'électricité dans l'air, et voilà tout. Lorsque Billot et les 11 autres commissaires reviennent au Champ de Mars, la foule s'est augmentée de près d'un tiers. Autant qu'on peut calculer dans l'immense bassin le nombre de ceux qui le peuplent, il doit y avoir environ 60 000 âmes. Ces 60 000 citoyens et citoyennes sont répartis tant sur le talus qu'autour de l'hôtel de la patrie et sur la plateforme et sur les degrés de l'hôtel lui-même. Billot et ses 11 collègues arrivent, il se fait un mouvement immense. De tous les points on accourt, on se presse. Les deux citoyens ont-ils été délivrés? Qu'a fait répondre monsieur le maire? Les deux citoyens n'ont pas été délivrés, et le maire n'a pas fait répondre, mais il a très bien répondu lui-même que les pétitionnaires étaient des factieux. Les factieux se mettent à rire du titre qu'on leur donne, et chacun reprend sa promenade, sa place, son occupation. Pendant tout ce temps, on a continué à signer la pétition. On compte déjà 4 ou 5 000 signatures. Avant le soir, on en comptera 50 000. L'Assemblée sera forcée de plier sous cette effrayante unanimité. Tout à coup, un citoyen accourt, haletant. Non seulement, comme les commissaires, il a vu le drapeau rouge aux fenêtres de l'hôtel de ville, mais encore, à l'annonce qu'on allait marcher sur le Champ de Mars, les gardes nationaux ont poussé des cris de joie, Puis ils ont chargé leurs fusils, et puis enfin, les fusils chargés, un officier municipal a été de rang en rang, parlant bas à l'oreille des chefs. Alors toute la masse de la garde nationale, bailli et la municipalité en tête, s'est mise en route pour le Champ de Mars. Celui qui apporte ces détails a pris les devants, afin d'annoncer aux patriotes ces sinistres nouvelles. Mais il règne une telle tranquillité, un tel ensemble, une telle fraternité sur cet immense terrain consacré par la Fédération de l'année précédente, que les citoyens qui exercent un droit reconnu par la Constitution ne peuvent croire que ce soit eux qu'on menace. Ils préfèrent penser que le messager se trompe. On continue de signer, les danses et les chants redoublent. Cependant, on commence à entendre le bruit du tambour. Ce bruit va se rapprochant. Alors on se regarde, on s'inquiète. Il se fait d'abord une grande rumeur sur les glacis. On se montre les baïonnettes qui reluisent, pareilles à une moisson de fer. Les membres des diverses sociétés patriotiques se rallient, se groupent et proposent de se retirer. Mais de la plateforme de l'hôtel de la patrie, Billot s'écrie « Frères, que faisons-nous? Et pourquoi cette crainte? Ou la loi martiale est dirigée contre nous, ou elle ne l'est pas. Si elle n'est point dirigée contre nous, pourquoi nous sauver? Si elle l'est, on la publiera, nous serons avertis par les sommations, et alors il sera temps de nous retirer. » « Oui, oui, crie-t-on de toutes parts, nous sommes dans les termes de la loi, attendons les sommations, il faut 3 sommations, restons, restons !» Et on reste. Au même moment, le tambour bat plus rapproché, et la garde nationale apparaît à 3 entrées du Champ de Mars. Un tiers de cette masse armée se présente par l'ouverture voisine de l'école militaire, un second tiers par l'ouverture qui se trouve un peu plus bas, enfin, le troisième par celle qui fait face aux hauteurs de Chaillot. De ce côté, la troupe traverse le pont de bois et s'avance, le drapeau rouge à sa tête, bailli dans ses rangs. Seulement, le drapeau rouge est un guidon presque invisible et qui n'attire pas plus les yeux de la foule sur ce corps que sur les 2 autres. Voilà ce que voient les pétitionnaires du Champ de Mars. Maintenant, que voient ceux qui arrivent ? La vaste plaine remplie de promeneurs inoffensifs et au milieu de la plaine l'hôtel de la patrie, gigantesque construction sur la plateforme de laquelle on monte, comme nous l'avons dit, par 4 escaliers gigantesques que 4 bataillons peuvent gravir à la fois. Sur cette plateforme s'élèvent encore pyramidalement des degrés qui conduisent à un terre-plein couronné par l'hôtel de la patrie qu'ombrage un élégant palmier. Chaque degré, depuis le plus bas jusqu'au plus élevé, sert de siège, selon sa capacité, à un nombre plus ou moins considérable de spectateurs. La pyramide humaine s'élève ainsi, bruyante et animée. La garde nationale du Marais et du Faubourg Saint-Antoine, 4 000 hommes à peu près, avec son artillerie, arrivait par l'ouverture qui confine à l'angle méridional de l'école militaire. Elle s'étendit devant le bâtiment. Lafayette se fiait peu à ces hommes du Marais et des Faubourgs qui formaient le côté démocrate de son armée. Aussi leur avait-il adjoint un bataillon de la garde soldée. La garde soldée, c'était les modernes prétoriens. Elle se composait, comme nous l'avons dit, d'anciens militaires, de gardes français licenciés, de faillettistes enragés qui, sachant qu'on avait tiré sur leur dieu, venaient pour venger ce crime, lequel était, à leurs yeux, un bien autre crime que celui de lèse-nation qu'avait commis le roi. Cette garde arrivait du côté du Gros Caillou, entrée, bruyante, formidable, menaçante, par le milieu du Champ de Mars, et elle se trouvait, dès son entrée, en face de l'hôtel de la patrie. Enfin, le 3e corps, qui débouchait par le pont de bois, précédé de ce mesquin drapeau rouge que nous avons dit, se composait de la réserve de la garde nationale, à laquelle étaient mêlés 100 dragons et 1 bande de perruquiers portant l'épée, comme c'était leur privilège, et armés du reste jusqu'aux dents. Par les mêmes ouvertures où passait la garde nationale à pied, pénétraient en même temps 2 escadrons de cavaliers, lesquels, soulevant la poussière mal abattue par cet orage d'un instant qu'on pouvait regarder comme un présage, dérobèrent aux spectateurs la vue du drame qui allait s'accomplir, ou ne le leur laissèrent entrevoir qu'à travers un voile ou par de larges déchirures. Ce que l'on put apercevoir à travers ce voile ou par ces déchirures, nous allons essayer de le décrire. C'est d'abord la foule tourbillonnant devant ces cavaliers dont les chevaux sont lâchés à toute bride dans le vaste cirque, la foule qui, complètement enfermée dans un cercle de fer, se réfugie au pied de l'autel de la patrie comme au seuil d'un asile inviolable. Puis, du côté du bord de l'eau, un seul coup de fusil et une vigoureuse fusillade dont la fumée monte vers le ciel. Bailly vient d'être accueilli par les huées des gamins qui couvrent les talus du côté de Grenelle. Au milieu de ces huées, un coup de fusil se fait entendre, et une balle est venue, derrière le maire de Paris, blesser légèrement un dragon. Alors Bailly a ordonné de faire feu, mais de faire feu en l'air, pour effrayer seulement. Mais, comme un écho de cette fusillade, une autre fusillade répondit. C'était la garde soldée qui tirait à son tour. Sur qui? Sur quoi? Sur cette foule inoffensive qui environnait l'autel de la patrie. Un effroyable cri succéda à cette décharge, puis l'on vit ce que l'on avait encore si peu vu alors et ce qu'on a vu tant de fois depuis, la foule fuyant et laissant derrière elle des cadavres immobiles, des blessés se traînant dans le sang. Et au milieu de la fumée et de la poussière, la cavalerie acharnée à la poursuite des fuyards. Le Champ de Mars présentait un aspect déplorable, c'était surtout les femmes et les enfants qui avaient été atteints. Alors il arriva ce qui arrive en pareille circonstance, la folie du sang, la luxure du carnage gagna de proche en proche. L'artillerie mit ses pièces en batterie et s'apprêta à faire feu. Lafayette n'eut que le temps de pousser à elle et de se mettre, lui et son cheval, à la bouche des canons. Après avoir tourbillonné un instant, la foule éperdue alla, par instinct, se jeter dans les rangs de la garde nationale du Marais et du faubourg Saint-Antoine. La garde nationale ouvrit ses rangs et recueillit les fugitifs. Le vent avait poussé la fumée de son côté, de sorte qu'elle n'avait rien vu et qu'elle croyait que toutes ces multitudes étaient poussées par la peur seulement. Quand la fumée se dissipa, elle vit, avec terreur, la terre tachée de sang et jonchée de morts. En ce moment, un aide-de-camp arrivait au galop et donnait ordre à la garde nationale du faubourg Saint-Antoine et du Marais de marcher devant elle, de balayer la place afin d'opérer sa jonction avec les deux autres troupes. Mais elle, au contraire, mit en joue l'aide-de-camp et les cavaliers qui poursuivaient la foule. Aide-de-camp et cavaliers reculèrent devant les baïonnettes patriotiques. Tout ce qui avait fui de ce côté y trouva une inébranlable protection. En un instant, le Champ de Mars fut évacué. Il n'y resta que les corps des hommes, des femmes et des enfants, tués ou blessés par cette terrible décharge de la garde soldée, et ceux des malheureux fugitifs sabrés par les dragons ou écrasés par les chevaux. Et cependant, au milieu de ce carnage, sans s'effrayer de la chute des morts, des cris des blessés, sous les décharges de la fusillade, à la bouche des canons, les patriotes recueillaient les cahiers de la pétition, qui, de même que les hommes avaient trouvé un refuge dans les rangs de la garde nationale du Marais et du faubourg Saint-Antoine, trouvèrent, eux, selon toute probabilité, un asile dans la maison de Santerre. Qui avait donné l'ordre de tirer? Personne ne le sut. C'est un de ces mystères historiques qui restent inexpliqués malgré les plus consciencieuses investigations. Ni le chevaleresque Lafayette, ni l'honnête Bailly n'aimaient le sang, et ce sang d'ailleurs les a poursuivis jusqu'à leur mort. Leur popularité s'y noya le jour même. Combien de victimes restèrent sur le champ du carnage, on l'ignore, car les uns diminuèrent ce nombre pour atténuer la responsabilité du maire et du commandant général, les autres l'augmentèrent pour grandir la colère du peuple. La nuit venue, on jeta les cadavres dans la Seine, complice aveugle, les roula vers l'océan les engloutit. Mais en vain Bailly et Lafayette furent-ils non seulement absous, mais encore félicités par l'Assemblée. En vain les journaux constitutionnels appelèrent-ils cette action le triomphe de la loi. Ce triomphe fut flétri, comme mérite de l'être toutes ces désastreuses journées où le pouvoir tue sans combattre. Le peuple qui donne aux choses leur véritable nom appela ce prétendu triomphe le massacre du Champ de Mars.